Bonjour bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne ce temps pour le célébrer, le chanter. Laisser notre être entier être reconnaissant pour ce qu'il est pour nous. Car il est notre Dieu. Il est celui dont nos vies dépendent. Et bien plus, il est notre Père. Celui qui prend soin de nous. Celui qui est proche de nous. Et pour cela, nous voulons être reconnaissants. La croix devant moi, le monde derrière moi, Christ pour toujours est mon choix. Ce choix, tu l'as fait, je l'ai fait à un moment donné de notre parcours de vie. Le regrettes-tu? Je pense que non, n'est-ce pas? Sinon tu serais pas là ce matin. Alors nous voulons bénir celui qui nous a donné de faire le plus grand choix, le plus merveilleux des choix de toute notre existence, le choisir. Lui, le Christ ressuscité, source de la vie, celui seul qui est capable de changer la vie des hommes. Et nous bénissons son nom, d'être sous son autorité et sous son regard. C'est ma joie d'être dans la maison de Dieu. Cette joie, elle ne dépend, comme dit la parole de Dieu, ni des circonstances, ni des moments. Elle dépend du fait que le Dieu tout-puissant, il est bel et bien vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit qu'en lui, il n'y a aucune ombre de variation. Il est égal à lui-même. Et nous pouvons donc lui faire confiance. Il est la source de tant de bénédictions dans nos vies, n'est-ce pas? Tant de bénédictions. Il est celui aussi sur lequel nous pouvons nous appuyer. Quand les jours sont plus compliqués, plus difficiles, il nous a promis son assistance, son aide, sa présence, son soutien. Merci Jésus. Merci Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te loue. J'aimerais ce matin nous encourager, peut-être conclure aussi une méditation que nous avons commencé il y a quelque temps dans le livre de Nombres. Ce livre qui nous raconte comment le peuple de Dieu a traversé cette étape de sa vie alors que Dieu les a libérés de l'esclavage de l'Égypte et qui les conduisait comme il avait promis à la terre promise à Canaan. Et le livre de Nombres nous montre comment, après la réception de la loi au Sinaï, comment le peuple s'est dirigé jusqu'à la porte de Canaan, et le livre de Deutéronome de Josué vont nous dire comment ils ont pris possession de cette terre. Alors, quand on lit ce livre, c'est vrai que on voit toutes les grandes choses que Dieu fait pour conduire son peuple, n'est-ce pas? Cette présence extraordinaire de Dieu. La Bible dit que le matin, c'était comme une colonne de nuée, et le soir, c'était comme une colonne de feu. Et le peuple pouvait voir cette manifestation extraordinaire de Dieu. Et j'ai dit, lorsqu'on prêchait la dernière fois dessus, que le chrétien doit toujours demander à Dieu de vivre quelque chose d'exceptionnel avec lui. Nous sommes des hommes ordinaires. Nous ne sommes pas des surhumains ou des supra-humains. Nous sommes des humains. Par contre, notre Dieu, il est Dieu. Et nous pouvons lui demander de nous aider à vivre des choses particulier avec lui, comme le peuple qu'il voyait cette colonne de nuée le matin et cette colonne de feu la nuit. J'ai dit que j'aimerais que Dieu nous aide tous à dire, Seigneur, je veux voir ta main me guider et me conduire dans chaque étape de ma vie, parce que c'est là qu'est mon assurance, n'est-ce pas? C'est là qu'est ma certitude que j'arriverai à bon port dans mes projets, n'est-ce pas? Et que même si je me suis trompé, lui, parce qu'il est présent, il pourra me faire prendre la bonne destination, la bonne route. Et on voit que tout au travers de ce livre, le peuple est conduit avec cette grâce, mais le peuple aussi c'est des humains comme nous, n'est-ce pas? Et le peuple a eu tous ces moments de faiblesse, on va dire, pour être humains comme eux, des moments de faiblesse. Ils étaient dans le désert, ils avaient besoin de manger, Dieu a pris soin d'eux. Le désert, c'est pas la grande ville, il y a rien. Il n'y a rien. Et Dieu a fait tomber la manne. Dieu a mis un système pour qu'ils aient régulièrement de quoi manger. La Bible dit avec une régularité, cette nourriture spéciale tombait dans tôt le matin et le peuple en ramassait. Ils avaient assez pour manger pendant plusieurs jours de marche encore. Jusqu'à ce que Dieu voie que la provision s'amenuise et qu'il fasse de même. Et puis arrivé un moment, le peuple a dit, ouais, mais la manne c'est bien, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose sur la carte de menu? Bon, ils commençaient à dire, c'est vrai, la manne, C'est quelque chose d'extraordinaire parce que quand même, on se lève le matin, le truc qui tombe du ciel, on le ramasse. Mais à l'Égypte, on mangeait des concombres, on mangeait des petits oignons. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de la viande. On aimerait manger de la viande. La Bible dit que Dieu n'était pas content de cela. Et Moïse a été triste. Parce que le texte dit dans le chapitre 11, que chaque famille se lamentait et pleurait. Et s'adressait à Moïse, puisque Dieu, il le voyait de loin, parce qu'ils avaient vu la manifestation de Dieu à Sinaï, et ils ont eu peur que Dieu se présente à eux. Et ils ont dit, Dieu, tu es trop puissant pour nous, que tu te révèles juste à Moïse. Nous, on veut voir de loin ta manifestation, sinon... Et donc, n'étant pas capable de se reporter tout de suite sur Dieu, c'est Moïse qui prenait tout de face. Et cet épisode-là a traversé un peu Moïse. Et Moïse a dit à Dieu, mais c'est un fardeau qui est lourd pour moi. Ce peuple-là, c'est pas moi qui les ai créés, c'est toi qui les as créés. Pourquoi tu me demandes à moi tout seul de porter la charge de ce peuple jusqu'à arriver à Canaan? C'est trop lourd. Il dit, rends-moi un service. Je veux même que tu me tues, que tu me prennes auprès de toi, parce que c'est la meilleure solution pour moi d'être auprès de toi pour ne pas avoir ce lourd fardeau. Parce que je suis entre toi et ma compassion pour ce peuple. Et puis Dieu fait grâce. Il dit, je vais leur donner la viande. Et Moïse dit, est-ce que tu as bien compté combien on est? Parce que là, je te parle pas des 10, de 100, de 200 personnes. Tu m'as dit de les recenser, je les recensais, chapitre 1 de Nombre. Ils étaient autour de 600 000 personnes. Tu vas donner de la viande à 600 000 personnes. Dieu dit, mais Moïse, à qui tu t'adresses? Tu t'adresses à moi. Ne te souviens-tu pas des grandes œuvres que j'ai faites? Comment j'ai fendu la mer Rouge pour les faire traverser? Et Dieu se sert de la nature. La Bible dit que à des moments précis, des vents faisaient rabattre des oiseaux migrateurs. Et ces oiseaux-là, à cause du grand vent, étaient ramenés vers le camp d'Israël. Et il y en avait tellement à manger. Le texte extrapole, puisque le texte veut montrer que Dieu en a tellement donné. Le texte dit qu'ils en mangeaient tellement que certains y laissaient leurs dents. Pour dire qu'ils avaient de la viande à... Voilà. Mais Dieu n'était pas content. Et puis, il va y avoir plusieurs épisodes comme ça, où le peuple va avoir... On va dire des besoins, mais des besoins qui vont être exprimés un peu en termes de récrimination à Dieu. Hein? Et puis dimanche dernier, on a vu cet épisode qui est l'un des épisodes les plus noirs de cette traversée. Les plus noirs de cette traversée, c'est quand Dieu dit à Moïse, choisis 12 personnes qu'ils aillent toucher du doigt la promesse que je t'ai faite. Qu'ils aillent voir le pays, si le pays est bien fertile comme je te l'ai dit. Si le pays il existe déjà, parce que vous êtes en marche depuis plusieurs mois, plusieurs années, et vous n'avez pas encore vu la réalité de ce que je vous ai promis, qu'ils aillent et qu'ils viennent faire un témoignage. Ils y sont allés, ils sont revenus, le témoignage au départ était éloquent. Oui, Dieu a promis des choses que nous avons vues de nos yeux, cette terre elle est fertile. Franchement, si on y va, c'est nickel. Et puis ensuite, ils vont dire, il y a un bémol. Parce qu'en fait, c'est vrai, la terre elle existe, c'est vrai, elle est fertile. Mais comment on va prendre possession? Nous, on a un gros doute dessus, parce que les gens qui y habitent, c'est vraiment des guerriers, c'est des géants, c'est des fils d'Anak, c'est des gens qui sont rompus à la guerre et leurs villes sont fortifiées de choses fortifiées. Donc, c'est quasiment impossible que nous habitions ce territoire. Le texte biblique dit qu'à leur commentaire, le peuple se mit à pleurer amèrement. Amèrement. Ils ont commencé à dire, ok, en fait, Dieu, on t'a compris. Tu nous as enlevés dans une situation, on va dire, pas très bonne, et tu nous emmènes dans une situation pire. Littéralement, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, ils disent ça dans le texte, ils disent, c'est vrai, on était esclaves, mais là-bas encore, ça allait. Mais là, en fait, tu veux nous faire tuer sur ce territoire, et nos fils et nos filles, tu veux les rendre esclaves à nos adversaires. C'en est trop, nous, on va faire demi-tour. On va se choisir de nouveaux chefs. On veut plus de Moïse. On va se choisir de nouveaux chefs et on va retourner. La Bible dit que ce que Dieu promet, sa main l'accomplit toujours. Et le peuple dit, tu n'es pas capable d'accomplir ta promesse. Tu n'es pas capable. Et là, mettez-vous à la place de Dieu, quelques minutes. Vous savez bien que ce que vous promettez à quelqu'un va se réaliser. La personne rencontre quelques embûches et puis elle vient vous faire un serment pas possible. Tu n'es pas une personne de confiance et pourtant tu m'avais promis que, tu m'avais dit que tout allait se faire et là du coup je vois plus rien se faire. Tu m'as sorti d'une situation un peu mieux mais là tout ce que tu me promets ce n'est que le désarroi, tu es une mauvaise personne, tu n'aurais pas dû me mettre dans cette affaire. Je me demande qui m'a envoyé même vers toi. J'aurais mieux fait de ne même pas te consulter. Oh là là, il y a des gens comme ça qu'on n'aime pas rencontrer dans sa vie. Tu ressembles à cette personne-là. Ça fait beaucoup pour une personne. Qui du reste, vous a porté jusque-là avec provisoire, avec provision et manifestation extraordinaire. Et le peuple... Et Dieu n'est pas content. Et c'est là que je vais vous parler de Moïse, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Moïse, c'est un jeune homme qui a eu une vie compliquée dès sa naissance, le pauvre. Il était destiné à mourir à sa naissance, il a échappé à la mort, divinement, par la providence de Dieu. Sa mère et ses autres concitoyens esclaves en Égypte, étaient vraiment dans un esclavage assez dur. On dit que les grandes réalisations que les gens vont visiter aujourd'hui en Égypte, les Juifs y ont laissé pas mal de leurs compatriotes, parce que c'est eux qui faisaient ces gros ouvrages à la main. Et c'était pas simple pour atténuer les choses. Ils en ont bavé. Leurs enfants... Mal était recruté pour être esclave comme eux. Donc, il n'y a pas d'avenir. L'avenir de ton enfant, c'est d'être esclave comme toi. Et puis, en plus, la Bible dit qu'ils étaient tellement féconds qu'à un moment donné, le pharaon dit, mais leur population commence à dépasser en nombre la population même de nous, les autochtones, les juifs. Donc, il prend un arrêté morbide. Il dit à toutes les accoucheuses, à chaque fois qu'une Israélite va mettre un enfant au monde, si c'est un enfant mâle, vous le tuez. Et c'est un décret du pharaon. Pharaon a droit de vie et de mort sur tout le monde dans son royaume. Et c'est ce qui se passe littéralement. Toutes les mamans qui mettaient au monde des enfants garçons les voyaient périr. Et Jochébed, la mère de Moïse, et Amra, son père, étaient dans la confusion. Vous savez, en ce moment-là, il n'y avait pas d'échographie. Donc, tu ne peux pas savoir si c'est une fille ou si c'est un garçon que tu vas mettre au monde. Tu peux pas savoir. Et j'ai dit la dernière fois, on peut imaginer tout le stress d'une mère enceinte qui arrive à son terme. Et là, Jochébed et Amram, parents de Moïse, qui avaient déjà deux enfants, parce que le premier, Aaron et la deuxième, Myriam, ils sont nés avant le décret. Quand Jochébed se rend compte que c'est un garçon, il dit, cette fois-ci, celui-là, honnêtement, on va pas me le tuer. Mais comment il va faire? Le test est éloquent, vous pouvez le lire dans le livre d'Exode. Avec sa fille Myriam et toute sa maisonnée, disent, OK, ce qu'on va faire, fait une corbeille, étanche, on met l'enfant dedans, et sa sœur Myriam va le couler au bord de ce fleuve du Nil, parce qu'elles ont l'information que quelquefois la princesse se baigne là avec, et que peut-être quelqu'un verrait ce panier. Et c'est comme ça que Moïse est sauvé. Et son nom veut dire ça. Moïse veut dire sauver des eaux. Celui qui a été recueilli alors qu'il est en train de couler sur les eaux. Sauver des eaux. Et c'est la princesse qui lui donne ce nom. Et ce Moïse, donc, il grandit là, en se doutant pas qu'il n'est pas juif, qu'il n'est pas égyptien du moins. Et puis, toute son histoire est compliquée. Au moins, il se rend compte qu'il est égyptien, qu'il est juif. Les juifs le rejettent. Les égyptiens aussi ne veulent plus de lui. Finalement, il est entre deux. Et puis, il s'enfuit. Et sur le territoire, il va, Dieu prend soin de lui, pendant 40 ans. Il devient berger. Et Dieu parle avec lui tranquillement. Et quand l'heure de son ministère arrive, Dieu l'appelle, il dit, Moïse, c'est l'heure. Tu vas aller libérer mon peuple. Il dit, mais de quoi tu parles, Seigneur? Là, je suis trop bien, là. Je suis sorti de toute cette affaire. Tu veux que je retourne? C'est pas possible. Et puis, même si je voulais, je sais pas parler. Comment veux-tu que je m'adresse à Pharaon avec toute l'éloquence qu'il a, tous les gens qu'il a autour? Dieu dit, ça, c'est un petit problème. J'ai déjà une équipe pour toi qui va t'accompagner. Bref, Moïse accepte et commence cette mission. Voilà comment la vie de Moïse commence, voilà comment son ministère commence. Et Moïse va conduire ce peuple. Il va vivre des choses extraordinaires. Dieu va lui dire, monte, je vais te montrer qui t'a appelé à conduire ce peuple. Et sur le mont Sinaï, il voit une manifestation incroyable de Dieu alors qu'il est monté avec quelques-uns des enfants d'Égypte, d'Israël. Dieu lui parle, Dieu lui donne les tablettes des 10 commandements. Cette tablette, le texte nous dit que Dieu l'a écrit lui-même de sa main et il le donne à Moïse. Et Moïse va conduire ce peuple-là tout au long de sa vie. Quelques textes pour nous convaincre de qui est Moïse et de nous inviter. Les personnages de l'Ancien Testament, pour quelques-uns comme Moïse, sont des figures en avance de celles que Jésus va être parfaitement. Hein, on dit que c'est des prototypes de Jésus que Dieu nous donne de voir. Mais en même temps, c'est des croyants, donc leur expérience est là aussi pour nous aider à prendre exemple sur certains aspects de leur vie positive, n'est-ce pas? Et ce matin, j'aimerais qu'on prenne exemple sur certains aspects de la vie positive de Moïse. Nombre chapitre 7, verset 89, hein, c'est un chapitre très long, verset 89. Il est écrit, « Lorsque Moïse entrait dans la tente de la rencontre pour parler avec l'Éternel, il entendait la voix qui lui parlait. » D'au-dessus le propitiatoire placé sur le coffre de l'arc de l'alliance entre les deux chérubins, et il lui parlait. Moïse parlait à Dieu. Moïse parlait à Dieu. Dieu lui parlait. Et Dieu va le dire dans un autre texte, il dit, aux autres prophètes, aux autres serviteurs de Dieu, je leur parle en songe et en révélation. Mais à Moïse, je parle face à face. Je lui parle de façon audible. Moïse parlait à Dieu. Quand on dit Jésus parlait à Dieu, on dit oui, mais Jésus, il était Dieu lui-même. Donc, c'est normal. C'est normal. Mais Moïse n'était pas Dieu. Moïse était un être humain. Je vous ai raconté comment il est né. Et la Bible dit, et pourtant, il parlait face à face avec Dieu. C'est l'un des éléments, retenez-le. On y reviendra. Moïse parlait avec Dieu. Chapitre 9, versets 6 à 9. Or, il arriva que des hommes qui s'étaient rendus rituellement impurs par le contact avec un mort ne purent célébrer la Pâque ce jour-là. Ils allaient trouver Moïse et Aaron ce même jour. Moïse leur répondit, « Attendez-là, pendant que j'écouterai ce que l'Éternel ordonne à votre sujet. » L'élément ici, c'est Moïse parle avec Dieu. C'est un leader naturel. Il a même eu l'onction de Dieu. Et des personnes qui sont dans une situation rituellement impure viennent lui demander conseil pour participer à une cérémonie spirituelle. En mon sens, Moïse aurait pu leur répondre, n'est-ce pas? Parce qu'il en a la capacité, parce qu'il parle avec Dieu. Mais Moïse dit, attendez là. Moi, je dois d'abord écouter Dieu avant de vous répondre. L'élément ici, c'est Moïse sait que même s'il est doué de capacité et de talent, ses capacités, ses talents lui viennent de Dieu. Et que la meilleure garantie pour lui, c'est de toujours chercher le conseil de la parole de Dieu avant de donner une réponse à ceux qui lui posent une question ou qui lui soumettent une situation. Premier élément, Moïse parlait avec Dieu. Deuxièmement, Moïse écoutait Dieu. Écoutait Dieu. Faisons les points sur ces deux éléments. Parler avec Dieu paraît aujourd'hui quelque chose de... Tu parles à Dieu, toi? Oh là là! Oui, je parle à Dieu, mon frère. Quand je suis en prière, ou quand je vis quelque chose de fort en moi et que mon âme s'élève même sans parole, je parle à mon Dieu. Et quand des situations sont très étriquées et que mon âme est en train de soupirer dans mon cœur, c'est que mon âme veut parler à mon Dieu. Quand je suis dans un moment de prière, je suis pas juste dans un acte religieux. Je parle à mon Dieu. La prière n'est pas juste une formulation de paroles intelligibles. La prière, c'est un temps où nous communions avec Dieu, où nous lui parlons. Si quelqu'un qui rentre dans la prière n'a pas conscience que Dieu est là pendant qu'il prie, qu'il entend, révise ta façon de prier. Révise ta façon de prier. Je parle à mon Dieu quand je prie. Quand je médite la Bible, je parle à mon Dieu. Je suis en dialogue avec lui parce qu'il m'a laissé ce texte, il m'a laissé cette parole. La Bible est la parole inspirée de Dieu. Quand je me plonge dans la méditation de la Bible, dans l'étude de la Bible, je parle à mon Dieu. Est-ce que c'est cette attitude que tu as quand tu médites? Est-ce que c'est ce qui te porte quand tu étudies la parole de Dieu? C'est ça, parler à Dieu. C'est pas juste une étude scripturaire d'un texte mort qui dit plus rien. Non. La Bible dit que l'Esprit est puissamment vivant parce que c'est lui qui a inspiré la parole de Dieu. Et quand nous lisons, nous parlons à Dieu. Et quand je médite ou quand je prie, je dois aussi être attentif, je dois écouter Dieu. On peut lire sans écouter. On peut converser avec quelqu'un sans l'écouter. Vous savez, ça arrive, hein. Soit t'as un ami ou ton épouse, elle te parle et puis t'es là. En fait, t'as les yeux sur elle, mais elle se rend compte qu'en fait, t'es ailleurs. Elle dit, est-ce que tu m'écoutes là? Tu dis, mais si. Je te dis, mais non, là, t'es parti quelque part, reviens, je veux te parler à toi. Et avec Dieu, parfois, nous faisons ça. On lit, mais on l'écoute pas. On est en prière, mais on est venu faire un monologue, en fait. On n'est pas venu dialoguer avec Dieu. On n'est pas venu pour être sensible à ce qu'il va nous dire. Dieu nous parle dans la parole. Dieu nous parle par certaines situations qui se présentent à nous. Il est le Dieu qui... Il est tellement Dieu qu'il utilise tous les moyens pour nous communiquer quelque chose. Il me semble que nous, parfois, cette écoute, on ne la développe pas assez. Que Dieu nous aide. Méditer, étudier, écouter une prédication, c'est aussi étendre l'oreille pour dire, ce matin, Seigneur, quel est l'aspect de ma vie auquel tu veux t'adresser. Moi, j'aime toujours, quand j'écoute un collègue, quand je suis une conférence, quand je suis même là les mardis, que c'est un autre frère qui prêche, je dis, Seigneur, je suis venu, certainement tu as quelque chose pour moi. Je suis venu t'écouter. Pour moi, pour ma famille, pour mon ministère, pour un frère, mais en tout cas, écouter Dieu. Nombre chapitre 10, verset 35. La Bible dit que chaque fois que le coffre sacré partait, Moïse priait. Lève-toi, Éternel, et que tes ennemis soient dispersés, que ceux qui haïssent fuient devant toi. Moïse avait conscience que le peuple avait des ennemis et que le seul qui était capable de les protéger, c'est Dieu. Il faisait cette prière qu'on peut appeler aujourd'hui une prière de combat. Seigneur, lève-toi et combat pour nous. Guide-nous, protège-nous contre toute adversité. Nombre 11, verset 2. Le peuple implora Moïse à grands cris. Celui-ci pria l'Éternel et le feu s'arrêta. C'est un épisode tragique où le peuple avait fait quelque chose et Dieu avait laissé un feu commencer à dévorer les tentes. Et le peuple est venu voir Dieu Moïse en disant, Moïse, s'il te plaît, demande à Dieu de nous pardonner. Moïse prie et Dieu arrête le fléau qui est en train de se manifester. Nombre 11, verset 10. Chaque famille se lamentait à l'entrée de la tente, de sa tente. Moïse entendit le peuple pleurer et l'Éternel entra dans une grande colère. Moïse en fut très affecté. Ces trois passages nous donnent aussi un autre élément de la vie de ce Moïse. Moïse était, comment dire, Moïse était en connexion avec ce peuple. Il aimait tellement ce peuple. Sa vie, c'était avec ce peuple-là. Toutes les situations de ce peuple faisaient vibrer Moïse, en bien ou en moins bien. Il se sentait concerné par la vie de ce peuple. Cette prière qu'il fait, lève-toi, protège ce peuple, conduis-le. Prends fait et cause pour lui, protège-le contre ses ennemis. Doit nous interpeller pour nos épouses, pour nos enfants, pour nos familles. Quand tu prie, demande à Dieu de protéger ta famille. Ce n'est pas une prière futile, bien-aimé. Nous savons que nos journées sont ce qu'elles sont. Elles peuvent être remplies de surprises désagréables, si on ne prie pas Dieu. Heureusement qu'il prend soin de nous, même quand on ne nous prie pas. Heureusement. Mais c'est lui qui nous dit aussi. Moïse aurait pu dire, mais c'est lui qui les a sortis. Pourquoi lui demander de nous protéger? Parce que toutes les façons, il va le faire. Mais Moïse formule cette prière quand même. Et nous avons besoin de formuler ces prières. Pour nos bien-aimés, pour nos familles, pour beaucoup de situations, parce que la vie n'est pas toujours un fleuve tranquille. Et que tout le monde ne nous aime pas toujours. Dans nos milieux professionnels, on fait tout ce qu'on peut, mais tout le monde n'est pas gentil comme nous. Et on a besoin de confier cela à Dieu. Combien de fois des collègues de service, combien de fois des voisins, combien de fois des personnes auxquelles tu t'entendais pas t'ont causé du tort ou t'ont dit sur ton compte des choses qui n'étaient pas vraies du tout. C'est pas cela qu'il faut confier à Dieu. La Bible, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais c'est la situation. Pour que Dieu te donne, toi, d'être protégé et que cette personne ou ces personnes puissent voir autre chose. Et que cela puisse les tourner en bien, elles, n'est-ce pas? Et puis aussi, d'être des gens, des chrétiens qui peuvent dire à Dieu, Seigneur, cette situation, ça en est trop, s'il te plaît, agis. Le peuple est venu, il y avait ce feu dans le camp, ils ont crié à Moïse, Moïse, s'il te plaît, c'est vrai, on a mal agi, mais demande pardon à Dieu. Moïse dit, Seigneur, je te demande pardon, fais quelque chose et Dieu arrête le feu. Si nous ne sommes pas convaincus en tant que chrétiens que nos prières, Dieu les entend et qu'il s'en sert pour agir, pourquoi nous prions, bien-aimés? Pourquoi nous prions? Il semble, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, il semble que la reine d'Angleterre disait, parce que vous savez que c'est la reine d'Angleterre, c'est la cheftaine de l'église anglicane, hein, l'église anglicane, c'est une église protestante. Bref, elle disait qu'elle a moins peur des intrigues politiques, mais c'est à une certaine époque, elle a moins peur des intrigues politiques de son royaume que des chrétiens qui se mettent à genoux pour prier. Mais les chrétiens même n'ont pas conscience quand ils se mettent à genoux pour prier, Dieu fait des choses. Et c'est terrifiant, c'est embêtant. Dieu a décidé d'agir avec la prière de ses enfants. Et nous, quand on prie, on est comme des flots qui ballottent. Seigneur, si tu veux bien, si tu es gentil. Non. Il s'agit pas de commander à Dieu, mais il s'agit d'avoir des convictions. Seigneur, nous, on prie. C'est toi qui agis. Mais la conviction que nous mettons dans ce moment de prière, c'est celui-ci. La décision t'appartient. Mais parfois, quand nous, on prie, on décide déjà pour Dieu avant de prier. Seigneur, je sais que tu vas pas agir, mais c'est pas grave, je te prie quand même. Ça va pas. Seigneur, je sais que tu fais pas ça, mais je te prie quand même. Il semble que tu guéris plus, mais quand même, si tu veux, tu peux guérir. C'est un peu compliqué. Il s'agit pas d'être des fous pour être des fous, il s'agit juste d'avoir des convictions quand nous prions et de dire, le reste appartient à Dieu. C'est lui qui décide, il est souverain. Mais il nous demande, nous, d'avoir cette conviction quand on vient. Moïse l'avait. Quand Moïse venait, il attendait que Dieu fasse quelque chose. Après, Dieu décide ce qu'il va faire. Et c'est cette conviction que j'aimerais que Dieu nous aide à porter aussi, comme Moïse. Parce que Moïse était affecté par toutes les situations. Il se sentait touché. Et puis, il y a tous ces autres versets qui nous montrent que Jésus, que Moïse est compatissant. Il n'est pas là que pour ses propres intérêts. Il porte aussi les autres. Quand nous sommes des chrétiens dans une assemblée, nous sommes là pour nous porter les uns les autres. Quand nous venons les mardis ou quand nous avons un sujet de prière, ce qui nous importe, c'est pas juste de formuler de belles phrases pour mon frère. C'est une conviction qu'il y a dans ces belles phrases. Quand je fais des phrases, qu'elles soient belles ou pas, peu importe, ma conviction c'est que, mon Dieu, ce frère, cette sœur, cette situation, j'aimerais tellement que tu l'en sortes, Seigneur. J'aimerais tellement que tu le protèges, que tu la protèges. J'aimerais tellement que pour ce jeune, que son avenir soit éclairé par toi. Que ses projets soient des projets qui se réalisent s'ils sont de ta volonté. Voilà la prière de conviction. J'aimerais tellement que cette église soit un endroit où quand les gens viennent, ils entendent parler de Jésus et ils voient leur vie recevoir Christ et changer. J'aimerais tellement ça, Seigneur. C'est ça, avoir un cœur d'intercesseur. Et j'en ai parlé vendredi dernier. Je prie donc que Dieu nous aide. À l'exemple de ce chrétien, parce que c'était un chrétien. Avant le temps, bien sûr, mais voilà. En prévision de la venue de Jésus, ce croyant, Moïse, son parcours n'était pas un parcours de quelqu'un qui a fait un parcours exceptionnel. Au contraire, c'est un parcours entaché de pas mal de situations compliquées. Et pourtant, important. Et même sa fin, et même la fin du ministère de Moïse. Moi, je suis triste pour Moïse, la façon dont il a fini, parce que je dis, Seigneur, là, tu as été un peu sévère quand même. Parce que ce Moïse-là, il a tout porté, et tu dis, parce qu'il a fait cette dernière action. La dernière action, c'est quoi? C'est que le peuple, encore une fois, commence à râler. Ouais, tout va bien, mais ça fait longtemps, on n'a pas bu de l'eau, on veut de l'eau fraîche. Moïse, qu'est-ce que tu fais encore? Et Moïse dit, franchement, qu'est-ce que je veux faire de vous? Moïse va consulter Dieu, et Dieu lui dit juste, quand tu vas arriver au rocher de Meriba, tu dis juste à ce rocher que l'eau sorte, et tu m'invoques, et je ferai sortir de l'eau. Mais Moïse est tellement dépassé par cette énième situation d'incrédulité du peuple, qu'au lieu de parler au rocher, il va taper le rocher avec son bâton. Comme si c'est lui qui avait donné de l'eau au peuple. Et c'est ça que Dieu lui a reproché. Et Dieu dit, Moïse, moi j'ai puni la désobéissance jusque-là. J'ai mis une pédagogie pour que ce que je dise, que le peuple le fasse à la lettre. Je les ai punis parce que même quelquefois, au détail près, ils ne l'ont pas fait. Donc si toi, tu le fais et que je ne fais rien, je suis un Dieu injuste quelque part. Même si ça me brise le cœur. Tu vas voir Canaan de loin, mais tu vas pas y entrer. Et Moïse n'est pas fâché. Moïse dit, mais qui va conduire le peuple après moi? C'est incroyable. Moïse dit pas, mais franchement, mon Dieu, quand même, c'est moi Moïse. Tu m'en as fait baver et là tu dis, je rentre pas à Cana. Non, Moïse dit, d'accord, j'ai compris, c'est toi qui décides. Il dit, la vie est dans la main de celui qui est souverain. C'est toi. Par contre, mais désigne quelqu'un d'autre pour conduire ton peuple. Parce que c'est le berger qui parle. Il dit, il faut que quelqu'un d'autre le conduise, ce peuple. Et Dieu dit, c'est Josué, celui que tu as équipé, que tu as formé durant toutes ces années, qui va être ton successeur. Voilà comment il finit Moïse. Et dans l'évangile de Matthieu, lors de la transfiguration, qui est avec Jésus? Moïse. Moïse est là, à côté de Jésus. Ça veut dire qu'il est rentré dans la gloire de son Dieu. Et Jésus atteste que ce Moïse est rentré dans la gloire de son Dieu. Parce qu'à la transfiguration, Moïse est là. Alléluia. Bien-aimés, pour être des gens simples, pour être des gens qui aiment Dieu, pour être des gens qui vivent la vie de Dieu, on n'a pas besoin d'être des femmes et des gens extraordinaires. On a besoin juste de faire confiance en Dieu, d'être obéissant et d'aimer Dieu, d'aimer les choses de Dieu, d'aimer la parole de Dieu, d'aimer parler à Dieu, d'aimer écouter Dieu, d'aimer suivre Dieu. C'est pas toujours une ligne droite, non, mais c'est cet effort constant et régulier qui nous intéresse. Et j'aimerais terminer avec quelqu'un d'autre qui contraste un peu avec ce tableau de Moïse. C'est dans le Nouveau Testament, il s'appelle Nicodème. Les plus anciens connaissent Nicodème. Les nouveaux, vous le découvrirez. C'est dans Jean le chapitre 3, l'évangile de Jean chapitre 3, verset 1 à 10. Jean chapitre 3, verset 1 à 10. Pourquoi je prends Nicodème? Parce que Nicodème est un peu aussi dans la succession de Moïse. Moïse, c'est un peu un sacrificateur, un prophète. En fait, les Lévites, Aaron, tout ça, leur ministère est en assistance de Moïse. Donc, c'est des gens que Dieu a mis à part. Et Nicodème, c'est un pharisien. Il fait partie de l'élite religieuse en ce moment-là en Israël, donc chez les Juifs. Il fait partie du conseil le plus élevé en Israël, le Sanhédrin. Et c'est un docteur de la loi. On dit, c'est quelqu'un qui a appris l'Ancien Testament et qui l'enseigne aux autres. Voilà le tableau. Et c'est ce Nicodème que Jésus va rencontrer, ou qui va rencontrer Jésus. Chapitre 3 de l'évangile de Jean, verset 1. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu as fait si Dieu n'était pas avec lui. Jésus lui répondit, vraiment, je te l'assure, à moins de naître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois vieux? S'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je te dis, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut, tu en entends le bruit, mais tu ne sais nous d'où il vient, nous où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit. Comment cela peut-il se réaliser? Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela? Lui répondit Jésus. Vraiment, je te l'assure. Nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas nos témoignages au sérieux. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes? Car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui est descendu, le Fils de l'homme. Amen. Donc ce Nicodème, je caricature, je tire les traits. Nicodème est un chrétien. En plus, il est pasteur, il est théologien. Il a fait 4 années de théologie. Il a appris toutes les doctrines de la parole de Dieu. Il sait lire la Bible depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Et Jésus dit, Nicodème, tu sais tout ça, mais tu n'es pas né de nouveau. Tu sais tout ça, et même les choses les plus simples et les plus importantes, parce que Jésus va lui rappeler, quand il dit les prophètes, ça dit qu'il y a des textes, même de l'Ancien Testament, qui disent que si on n'est pas d'esprit, on ne peut pas. Il dit, je vais vous circoncire. Il en parle dans le livre de Joël. Et c'est ce que les apôtres vont redire dans le livre des Actes à la Pentecôte. Je fais une nouvelle alliance. Cette alliance, je la scellerai dans vos cœurs. Je vous donnerai un nouveau cœur. Il dit, Nicodème, tu ne sais pas cela. Donc, on a un Moïse qui est très éloigné de nous chronologiquement, donc qui date de l'Ancien Testament, mais qui lui croit ce que Dieu dit et qui laisse sa vie être touchée, transformée, pénétrée par la présence de Dieu, qui parle à Dieu, qui écoute Dieu. Et puis on a un Nicodème qui a à peine 2000 années de nous, qui lui a rencontré Jésus, lui a parlé face à face, mais qui ne sait pas que c'est Dieu qui lui parle. Qui ne sait pas écouter, qui ne sait même pas entendre, qui n'a pas laissé son cœur être transformé. Et pourtant, il connaît tout l'Ancien Testament. Attention, bien-aimé. La connaissance sans l'Esprit de Dieu ne peut pas nous faire entrer dans le royaume de Dieu. Connaître la parole de Dieu, c'est une nécessité. L'apprendre, c'est la nourriture de notre âme. Mais si tu l'apprends pour l'apprendre et pour être dans une sphère religieuse comme Nicodème, et que tu n'arrives pas à discerner les choses spirituelles comme dit Jésus, à quoi cela te sert-il? Ma pensée sur ce personnage Nicodème, c'est, Seigneur, aide-moi. Moi, je suis pasteur. Aide-moi. Ce schéma, je le refuse pour ma vie. Connaître dans ma tête, connaître ces choses, savoir l'expliquer aux autres et ne pas le vivre, éloigne-moi de ce chemin. Éloigne-moi de ce chemin. Jésus dit, vous êtes heureux pourvu que vous entendiez, mais bien plus que vous pratiquiez. Il dit, car c'est pas l'écoute qui importe à Dieu. C'est ce qu'on fait de ce qu'on a entendu. C'est ce que tu vas faire de ce que tu entends, de ce que tu lis. Comment cela t'impacte dans ta vie? Comment tu as confiance en Dieu? Donc, je t'ai présenté Moïse. Et j'aimerais que comme Moïse est la préfiguration de Jésus, qu'il nous aide à nous projeter. Amen. Que le schéma de Nicodème, en tout cas, parce qu'après, Nicodème a changé. Cette rencontre ne l'a pas laissé sans effet. Hein, on voit après qu'il défend Jésus, même si politiquement, il essaie d'avoir un langage politiquement correct, mais il défend Jésus, hein, au procès de Jésus. Il dit, vous pouvez pas condamner quelqu'un sans l'avoir entendu. Hein, donc il dit à ses autres collègues, non, il faut l'entendre, il faut pas le condamner comme ça. Et puis à la mort, il est avec Joseph d'Arimathie et c'est les deux qui donnent de l'argent et du matériel pour prendre soin de la sépulture de Jésus. Parce qu'il a bien compris que son contact avec Jésus a changé sa vie. Son contact avec Jésus a changé sa vie. Et je termine avec ce témoignage d'un grand homme de Dieu. Il n'aimait pas qu'on l'appelle grand. C'est une appellation que j'aime pas non plus, mais je situe ça dans ce qu'on appelle l'histoire de l'Église, hein, parce qu'il y a des gens qui ont marqué l'histoire de l'Église. John Wesley, le père initiateur de l'église qu'on appelle aujourd'hui l'église méthodiste, qui était le père d'un certain réveil en Angleterre. John Wesley, alors qu'il était chrétien, semble-t-il, et qu'il évangélisait, Il dit, je me suis converti quand je revenais de mission des États-Unis, quand j'ai rencontré les frères Mouraves. Les frères Mouraves, c'était une communauté à l'époque qui aimait la présence de Dieu, qui aimait prier. Il dit, dans le bateau de retour, parce que John Wesley était dessus de sa mission, on appelait ça à l'époque le Nouveau Monde, c'était les États-Unis. Il était allé pour évangéliser, mais ça n'a donné aucun fruit. C'était tellement stérile qu'il a dit, mieux vaut que je rentre en Angleterre. Et sur son chemin de retour, il rencontre dans le bateau une communauté de chrétiens qui, eux, aiment la prière, aiment la méditation, aiment les choses. Lui, il a grandi dans une sphère où c'était théologie, raison, voilà. Et là, il dit, là, j'ai fait l'expérience de la conversion. Et quand il rentre en Angleterre, il devient un prédicateur, un évangéliste incroyable. Incroyable. Que Dieu nous ait bien aimés. En ces temps difficiles, je prie que notre foi soit une foi solide. Que nous soyons des personnes qui parlent à Dieu, qui écoutent Dieu, que nous soyons des gens compatissants, qui aimons prier pour les autres, qui aimons soutenir les autres, ne serait-ce que dans la prière, comme Moïse. Et qui aimons que la parole de Dieu continue son effet dans la vie des gens. Et que l'Église continue son ministère dans notre monde qui a besoin encore plus de la prière de l'Église. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ce temps de méditation avec mes frères, avec mes bien-aimés, comme je l'ai laissé entendre. Moi, en préparant ce texte, tu m'as parlé et tu m'as convaincu que je pouvais le communiquer à mes bien-aimés, qu'ils pouvaient en tirer les uns et les autres quelque chose que toi, tu leur communiquerais. Ma prière, c'est que là, qu'il ait entendu, tant mieux. S'ils ont besoin de le mâcher plus tard pour l'entendre, tu le feras aussi, notre Dieu. Ma prière, c'est que tu nous aides tous à continuer d'être des chrétiens et des chrétiennes engagés, qui te font confiance, qui t'aiment, qui aiment les gens, et qui aime que l'œuvre de Dieu au travers de l'Église puisse avancer pour la gloire de notre Dieu. Amen.
Merci pour le message de la parole de Dieu. Comme il a été dit, Dieu a fait une alliance avec nous. Il nous a donné un cœur nouveau. Mais dans plusieurs textes, nous voyons des personnes qui, leur cœur n'était pas totalement attaché à Dieu. Et nous voyons que ces personnes se sont plutôt détournées de Dieu au point de se perdre. Donc, où est ton trésor, là sera ton cœur. Si ton cœur, il est vers Dieu, tu écouteras Dieu te parler. Tu pourras dialoguer avec Dieu.